Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la mondialisation de l'histoire en cours, actualité des rapports entre histoire et société, actualité des lois et des décrets. Pour commencer, comme chaque dernier vendredi du mois, nous ouvrons cette émission par une fabrique mondiale de l'histoire en partenariat avec le mensuel L'Histoire, séquence mensuelle qui nous permet d'interroger la mondialisation de l'histoire en cours. Ce matin, à mi-chemin de la commémoration du premier conflit mondial 14-18, nous recevons avec Valérie Hanin, directrice de la rédaction de l'Histoire, l'historien Arne Weinrich, spécialiste de la Grande Guerre et chargé de recherche à l'Institut historique allemand. Puis Amélie Meffre se saisira du verdict rendu le 13 avril dernier dans le procès des pirates somaliens pour nous rappeler la loi de 1825 sur la sûreté de la navigation et du commerce maritime. Enfin, en prélude aux trois émissions que nous consacrons lundi, mardi et mercredi prochain aux changements en cours dans l'écriture de l'histoire en Tunisie, nous vous proposerons un entretien avec la juriste Farah Hached, fondatrice du Labo démocratique, un mouvement civique tunisien qui milite pour une ouverture plus large des archives et en particulier des archives de la dictature. Bonjour Arne Weinrich, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et bonjour à vous Valérie Hanin.
Bonjour.
Pour notre séquence mensuelle avec le magazine L'Histoire, dont vous dirigez la rédaction, donc magazine L'Histoire, qui va consacrer, en particulier dans le numéro qui vient, qui sort tout juste d'ailleurs, qui consacre une double page à cette question de la Première Guerre mondiale et de sa commémoration à travers l'exemple de deux historiens qui ont travaillé ensemble, Nicolas Patin et Arne Weinrich, qui est notre invité. Effectivement, la commémoration, ce sera à la fin de ce mois, la rencontre du président français de la chancelière allemande à Verdun.
Et oui, Emmanuel, à Verdun, c'est là, en effet, il y a tout juste 100 ans que sur quelques dizaines de kilomètres carrés, Français et Allemands se sont affrontés pendant 10 mois dans un duel d'artillerie qui a fini parfois au corps à corps, qui a fait 750 000 victimes, dont 300 000 morts, Français et Allemands confondus. Tout commence avec l'offensive lancée le 21 février par Falkenhayn sur un saillant du front. Mais ce qui a décidé du sort de la bataille, c'est la décision stratégique immédiate du haut commandement français, en accord avec le président du conseil Aristide Briand, de tenir aussi la rive droite de la Meuse. Un pari fou peut-être, mais un pari tenu. La décision est lourde de conséquences, car les soldats qui ont tenu à Verdun n'ont pas seulement rempli leur mission. Ils ont construit un mythe, celui de la bataille héroïque, celui des poilus que rend invincible la défense coûte que coûte des frontières de la patrie. Un mythe résumé avec force dans la formule à tort attribuée à Pétain, ils ne passeront pas. Difficile du coup pour un Français de croire que cette mémoire de Verdun si forte, si prégnante en France, ne soit pas vue de la même manière ailleurs. Or, les choses sont très différentes si on les considère d'un point de vue global. La bataille de Verdun est loin d'être la plus grande bataille de cette année 1916. À Chantilly, à Noël précédent, les Alliés ont décidé la grande offensive. Et du coup, le 4 juin 1916, c'est à l'est l'offensive Broussilov des Russes, et le 1er juillet, bien sûr, dans la Somme, l'offensive franco-britannique qui a été le premier jour une hécatombe. Au terme des 141 jours de la bataille, on comptera là 1 200 000 pertes, dont 430 000 Britanniques, Dominions compris. C'est là que viendront d'ailleurs le 1er juillet David Cameron et, nous en reparlerons sans doute, le prince Charles qui représentera la reine, qui avait pourtant annoncé que ce serait là son dernier voyage à l'étranger. Alors, en cette année 1916, on se bat partout. À Salonique, en Afrique, en Palestine, on se bat aussi sur mer, au Jutland. La guerre flambe, il faut dégarnir un front pour en garnir un autre. On manque d'hommes, de tout, de nourriture. À cette aune-là, la bataille de Verdun, si importante pour nous, pourrait sembler une sorte d'affrontement franco-allemand d'un autre âge. Alors, Arne Weinrich, vous signez en effet dans le dossier que nous publions dans le numéro de mai sur Verdun, vu d'ailleurs, avec Nicolas Patin, un article intitulé « Chacun sa guerre ». Est-ce que vraiment ça voudrait dire qu'à Verdun, pendant 10 mois, les Français et les Allemands n'ont pas livré la même guerre ?
Comme souvent en histoire, la réponse est oui et non. Hein, oui, ils ont livré la même guerre, certes, dans une certaine mesure, parce que justement la souffrance, la peur, le mort de masse, la soif, tout ce qu'on veut, la boue, etc., etc., et j'en passe, évidemment, ont été les mêmes des deux côtés du front, et donc cette expérience combattante a, à bien des égards, tendance à rapprocher les Allemands des Français. En revanche, dès qu'on passe à un autre niveau, au niveau de l'interprétation, de la perception
de la bataille,
de la bataille et de la guerre, on arrive à une autre conclusion. Puisque là, on se rend compte, finalement, que pour les Allemands, beaucoup plus que pour les Français, la bataille de Verdun s'inscrit dans l'économie globale des batailles de l'année 1916 et qu'elle n'est donc finalement qu'une bataille parmi bien d'autres. Les Allemands, dès 1914, mènent une guerre mondiale, mènent une Weltkrieg, hein, donc contre un monde rempli d'ennemis et qui est accessoirement et en partie une guerre franco-allemande. Pour les Français, c'est à bien des égards l'inverse. Les Français, ils mènent d'abord une guerre franco-allemande qui est accessoirement une guerre mondiale. Donc là, c'est une différence, une dissymétrie, si je peux dire, fondamentale, qui explique aussi pourquoi, finalement, en février 1916, la bataille de Verdun n'est pas tout de suite aussi importante qu'en France, et pourquoi elle se transformera beaucoup moins en mythe dans les années qui viennent que ce n'est le cas en France.
Mais si ce n'est pas pour les Allemands une guerre franco-allemande d'abord, pourquoi Falkenhayn, le 21 février, décide-t-il d'attaquer là, sur la Meuse ? Parce que là, ce sont les Français qui sont.
Justement, paradoxalement, il attaque les Français parce que il veut frapper les Anglais, en fait. Pour Falkenhayn, c'est très clair, l'ennemi principal, c'est la Grande-Bretagne. Et il espère, en frappant le maillon faible, si je peux dire,
de cette
alliance franco-britannique qui sont, selon lui, et là c'est un trait fondamental un petit peu de la pensée de l'état-major allemand depuis très 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 longtemps, qui est de sous-estimer l'armée française. Donc on espère s'attaquer aux Français pour finalement les contraindre à sortir de la guerre. Donc il joue un petit peu dans ses calculs à ricochet, il veut frapper les Français pour finalement vaincre les Anglais.
Valérie Hanin.
La paix séparée, au fond, c'est ce qu'il cherche pour se retourner ensuite contre les Anglais, les vrais ennemis, entre guillemets, qui sont eux sur la Somme.
En décembre 1915, contrairement au grand succès qu'a connu l'armée allemande, notamment avec la bataille de Goritzias, qui vraiment, où elle a connu les gains territoriaux le plus importants pendant toute la guerre, contrairement à ces succès qui ont failli vraiment à faire sortir la Russie de la guerre, Falkenhayn est extrêmement inquiet. Il pense qu'il ne peut pas gagner la guerre à l'Est, contrairement à ce que disent Hindenburg et Ludendorff, justement, qui sont ses concurrents au sein de l'armée allemande. Il est sûr qu'il faut chercher la décision sur le front de l'Ouest. Et donc là, du coup, il y a différents scénarios. S'attaquer aux Britanniques de front et directement, ils ne l'osent pas parce qu'ils les considèrent quand même comme une armée extrêmement, extrêmement puissante. Et donc, du coup, ils se reportent, son effort se reporte sur les Français qu'ils décident justement d'attaquer avec la plus de puissance possible.
Alors évidemment, il y a l'intention, en l'occurrence, de l'état-major allemand d'attaquer cet endroit qui, pour lui, est une sorte de maillon faible du front, donc, et d'attaquer les Français à cet endroit-là. Mais il y a la réalité de ce qui va se passer. Et donc cette bataille qu'il voudrait d'une certaine façon, cet état-major allemand mineur, en tout cas, qui serait une sorte de coup de boutoir qui permettrait de séparer l'alliance franco-anglaise, va s'avérer très différente de ce qu'ils ont imaginé au départ, Arne Weinrich.
Exactement. Ça s'est pas du tout évidemment passé de la manière escomptée par Falkenhayn. Les Allemands attaquent. Dans un premier temps, ils avancent assez vite, mais très rapidement, comme l'a dit Valérie Hanin, les Français décident de faire front énergiquement avec toute leur capacité défensive. Et c'est cette décision-là, finalement, la décision de tenir la rive droite, coûte que coûte, qui est en quelque sorte, et c'est Gerd Kromaille et Antoine Pro qui l'ont appelé comme ça dans leur livre franco-allemand sur Verdun, la décision fondatrice de cette bataille.
C'est le coup de théâtre d'une certaine façon.
Enfin, on va dire que c'est la décision française, la contribution française à ce qu'il peut y avoir une bataille. Parce que finalement, il était tout aussi bien envisageable de se retirer sur la rive gauche et de laisser les Allemands s'emparer des côtes de la Meuse. Et dans ce scénario-là, il n'y aurait pas eu finalement de bataille de Verdun du tout.
Valérie Hanin.
Mais alors, du coup, comment les Allemands l'ont expliqué? Comment Falkenhayn a-t-il ensuite expliqué sa décision? Il y a ce grand mythe de la saignée, hein, saigner à blanc les Français. Ça n'était pas du tout l'objectif fondamental.
Disons que cette idée de saigner à blanc les Français arrive assez tard dans le processus. Hein. C'est une idée que finalement Falkenhayn met en avant bien après la guerre. Qu'on trouve dans la presse allemande à partir du mois de mars 1916, où finalement on se rend compte que les choses ne se passent pas comme prévu. En même temps, le dispositif allemand, le plan de guerre allemand, comprenait quand même en quelque sorte cette idée d'affaiblir la France. Parce que ce que visait Falkenhayn n'était pas la percée. Il ne s'attendait pas à pouvoir rompre le front, mais il tenait à s'emparer rapidement des côtes de la Meuse en espérant que les Français seraient par la suite obligés de lancer des contre-attaques pour reprendre ces côtes, contre-attaques dans lesquelles ils s'affaibliraient considérablement. Donc cette idée de saigner à blanc, même si elle vient un peu après coup, finalement, elle est d'une certaine manière tout de même assez présente dans ce que pense l'état-major allemand à l'époque.
Alors, on voit bien que tout cela dure longtemps. Cette bataille de Verdun est un long combat, pourrait-on dire, puisqu'il commence au tout début de l'année 16, mais qui se terminera dans la deuxième moitié de cette année 16. Et cette bataille de Verdun va laisser des traces, évidemment, dans la mémoire, qui vont être des traces qui vont, évidemment, ne pas être les mêmes d'un côté et de l'autre des pays belligérants. Comment cela se fabrique-t-il d'une certaine façon au fur et à mesure de la guerre elle-même et surtout après la guerre, Arne Heinrich?
Ce qui est curieux, c'est que dans un premier temps, donc pendant la guerre, les Allemands finalement ne font pas beaucoup de cas, on va dire, de Verdun. Donc il y a certes, tout au début de la bataille, et notamment avec la prise du fort de Douaumont, le 25 février 1916, toute une jubilation allemande parce qu'on croyait tenir Verdun, justement, avec la prise de cette pierre angulaire de la forteresse de Verdun. En revanche, il est quand même frappant de constater qu'après cet événement, qu'après cette prise, l'intérêt porté à Verdun retombe assez rapidement, alors que la bataille, évidemment, est continue. Et que finalement, quand on regarde l'année 1916 dans son ensemble, la bataille de la Somme est beaucoup plus médiatisée, qu'on ait un écho beaucoup plus important que la bataille de Verdun. Ce qui tient sans doute à une raison principale, c'est que pour les Allemands, la bataille de la Somme est évidemment une bataille défensive. Ce qui correspond donc à la lecture globale du conflit d'une Allemagne encerclée par ses ennemis qui ne fait que se défendre. Alors qu'en revanche, en ce qui concerne Verdun, là on est clairement dans une configuration d'attaque, d'offensive, et qui colle donc en quelque sorte bien moins avec les discours de propagande prédominants.
Valérie Hanin.
Oui, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en France, c'est que les Allemands ont livré, de leur point de vue, en 1914 et encore en 1916, et après tout en 1916, c'est vrai qu'il y a une offensive de chaque côté, les Russes à l'Est, les Franco-Britanniques à l'Ouest sur la Somme, que les Allemands ont conscience, eux, d'avoir livré une guerre défensive. Donc ça, c'est important de le rappeler. Mais tout de même, Verdun, alors, aurait pu sombrer complètement dans la mémoire allemande. Mais ce que vous montrez ailleurs, c'est que quand même, ce mythe de Verdun a fini par faire son chemin aussi dans la mémoire allemande. Et à partir de quel moment ?
c'est, on va dire pour faire court, que finalement, Verdun n'occupera jamais, dans la mémoire allemande de l'entre-deux-guerres, la place centrale qui est la sienne dans la mémoire française. Mmh. Il y a toujours une concurrence mémorielle extrêmement forte. Il y a la bataille de Tannenberg, donc la victoire d'Hindenburg et de Ludendorff contre l'armée russe en août 1914, qui reste important. Il y a surtout le mythe de la bataille de Langemark, une autre bataille complètement oubliée aujourd'hui, du mois de novembre 1914, près de dans les Flandres, qui vraiment est un lieu de mémoire extrêmement important. Il y a la bataille de la Somme, et il y a aussi Verdun. Donc dans tout cela, c'est beaucoup plus...
Verdun prend sa place, mais
elle n'aura jamais la place dans la mémoire allemande de l'entre-deux-guerres qu'elle a dans le cas français. Après, il y a des conjonctures que connaît ces mythes, et la conjoncture la plus favorable, finalement, à l'émergence du mythe de Verdun dans la mémoire allemande, c'est la redécouverte de la guerre dans la littérature de guerre allemande dans la deuxième moitié des années 20, qui va de pair aussi avec la montée en puissance finalement des nazis, hein, puisque là on voit émerger une lecture de la guerre qui fait finalement du groupe de combattants de Verdun le gamète, hein, le point de départ de la communauté du peuple, qui fait du combattant de Verdun le modèle du guerrier allemand qui est capable de se surpasser, qui est capable de maîtriser tout jusqu'à son instinct de survie.
De survivre aux orages d'acier.
Exactement, et que les nazis, évidemment, appelleront de leur vœu. Donc c'est en quelque sorte, là, après, avec la prise du pouvoir du parti nazi en 1933, qu'on va connaître l'apogée, en quelque sorte, du mythe de Verdun dans la mémoire allemande de l'entre-deux-guerres. Donc si on voulait simplifier, on pourrait dire que les nazis ont, en quelque sorte, inventé ce mythe de Verdun.
Oui, ça c'est une simplification effectivement assez importante, mais néanmoins qui permet effectivement de comprendre ce contre-temps, pourrait-on dire. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça ne se passe pas au même moment dans la mémoire française et dans la mémoire allemande, et ça n'exalte pas la même chose. Ça exalte la résistance des Français d'un côté, et ça exalte le combat victorieux, enfin le combat donc très agressif, pourrait-on dire, des soldats allemands de l'autre, Arndt Benrich.
Voilà, exactement. Donc là, on est au niveau du contenu, on n'est pas du tout dans la même configuration.
Mais alors, c'est un mythe très plastique, parce qu'aujourd'hui, on avait cette confrontation extraordinaire des mythes dans les années 30, enfin à l'époque des nazis, et comme vous venez de le dire, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Verdun nous sert à se serrer la main, à aller commémorer ensemble. Il y a cette photo, évidemment, très connue de Helmut Kohl et tenant la main de Mitterrand en 1984 sur les lieux de la bataille, et aujourd'hui, la chancelière Angela Merkel, qui viendra rencontrer François Hollande avec 4000 collégiens, dit-on. Donc, aujourd'hui, c'est un symbole de paix, c'est encore un symbole franco-allemand.
Arndt Benrich.
Exactement. Même s'il faut dire que cette plasticité, elle était déjà là au départ. Ouais. Enfin, même, surtout dans la mémoire française. Il y a toujours cette coexistence de discours pacifistes, insistant sur la souffrance, et des discours plutôt officiels qui ont insisté plus sur le
combat,
la victoire, surtout la résistance victorieuse contre l'envahisseur. Aujourd'hui, effectivement, depuis les années, dans l'après 45 plutôt, on assiste effectivement à une convergence très très nette des discours mémoriels autour de Verdun, qui justement mettent Verdun au cœur d'une mémoire partagée franco-allemande qui est organisé évidemment autour de la souffrance partagée, la souffrance commune qu'ont vécu les Allemands et les Français à l'époque.
Mais on voit bien tout de même, puisque nous sommes dans une émission, enfin une partie de l'émission, cette séquence qui s'appelle la fabrique mondiale de l'histoire, Arndt Benrich, qu'au bout du compte, c'est un couple que l'on fabrique, un couple mémoriel en l'occurrence, c'est-à-dire on se regarde les yeux dans les yeux, soit pour se haïr, soit pour s'aimer, mais au bout du compte, on en oublie le reste qui a été décrit très bien par Valérie Hanin au tout début de cette séquence, c'est-à-dire que en 1916, les fronts fronts sont multiples et qu'il y a bien d'autres ennemis amis que le simple couple franco-allemand, Arne Weinreich.
Ah oui, exactement. C'est toujours un choix politique que de mettre le franco-allemand au cœur du dispositif. Hein. Alors que, bon, il y a d'autres logiques qui jouent pour d'autres batailles, notamment évidemment pour la bataille de la Somme qui est pour les Britanniques, évidemment.
Et l'ancien empire britannique.
Et l'ancien empire britannique, mais qui est dans la perception des choses qu'il a leur, une bataille exclusivement britannique. Mmh. Hein, donc là, on s'étonne quand même de l'absence et des Français. Et des Allemands, d'ailleurs, dans ce discours mémoriel. Donc là, il y a clairement une volonté de créer un récit intégrateur franco-allemand autour de cette bataille.
Valériane.
Mais alors, est-ce que la commémoration tient ses promesses? Cette commémoration de la Première Guerre mondiale, autour notamment de la mission constituée en France autour de par Joseph Zimet et autour d'Antoine Prot, a tenu absolument à élargir la mémoire de la Première Guerre mondiale et à lui donner sa dimension européenne et même tout à fait mondiale. Est-ce qu'on y arrive? À beaucoup d'égards, il semble qu'on y soit arrivé. Est-ce qu'on échappe aux mémoires nationales? Est-ce que c'est si facile d'échapper aux mémoires nationales?
Non, c'est effectivement extrêmement difficile d'échapper aux mémoires nationales, surtout qu'on est là face à une guerre qui a été une guerre des nations. Donc évidemment, la guerre s'est inscrite de manière très très différente dans les différentes mémoires nationales. En même temps, moi je pense que ce qui a été fait, notamment en France, par la mission du centenaire, est quelque chose d'extrêmement positif, dans la mesure où il y a là vraiment un effort de politique mémorielle qui a visé une européanisation.
Un changement d'échelle
très très net.
Voire une mondialisation.
En insistant surtout dans tout cela sur l'aspect franco-allemand qui est fort à saluer et qui n'aurait pas été possible il y a 20 ans. Donc ça, je retiens ça comme quelque chose d'extrêmement important. En revanche, au-delà de ces discours, on va dire un peu de politique officielle, on voit quand même que l'aspect national reste extrêmement important. Justement dans le cas de Verdun, on voit que certes il y a le 29,
mais la rencontre entre Merkel et Hollande
qui s'inscriront dans la tradition du geste commémoratif de Kohl et de Mitterrand de 1984. Mais il y a aussi, donc, à l'échelle plus locale, il y a plein de choses qui sont complètement traditionnelles qui se passent. Donc là, on a vu, par exemple, en février de cette année, l'inauguration d'un monument à la gloire des chasseurs de Drian, ouais. Donc qui a été accompagné d'un discours très très traditionnel, très très patriotique.
Et les débats autour de la restauration de ce fameux arc de triomphe qui était à la gloire des soldats allemands, enfin dans l'après-guerre effectivement, et qui ne trouvait pas de sponsor pour pouvoir le rénover, cet arc de triomphe, parce que simplement, eh bien, personne ne voulait mettre de l'argent à Verdun sur la restauration d'un monument, encourageant le courage allemand, en l'occurrence Arne Weinreich. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a des tensions entre le niveau supra et puis le niveau local, en l'occurrence, de cette commémoration, Arne Weinreich.
Oui, exactement. Enfin, ça s'est aussi vu, par exemple, en 2009, quand on a décidé de hisser un drapeau allemand sur le fort du Douaumont. On a tout de suite vu que cette décision a été contestée, y compris par les autorités politiques locales. Hein, même chose là, en 2014, quand une plaque, pour la première fois dans l'ossuaire du Douaumont, a été dévoilée, une plaque portant le nom d'un soldat allemand, tout de suite on voyait quand même que ça faisait pas consensus, que le geste n'allait pas de soi comme on aurait pu le penser.
Valériane.
Oui, on a du mal à échapper à Verdun malgré tout. Alors, où en sont les Allemands aujourd'hui avec la mémoire plus globalement de la Première Guerre mondiale? On a assisté à un succès incroyable du livre de Christopher Clark, Les Somnambules, qui semblait les déculpabiliser sur les responsabilités de la guerre. Est-ce qu'ils ont commémoré sereinement? Est-ce qu'ils commémorent sereinement? Est-ce qu'ils s'intéressent? Et de quelle façon aujourd'hui à la mémoire de la guerre?
Pour commencer, je pense que le centenaire allemand, il a eu lieu. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on n'aurait pas forcément dit il y a quelques années.
On disait qu'il n'allait pas s'y intéresser.
Voilà, là, on était encore dans une logique où on disait que les Allemands, finalement, ne s'intéressaient pas vraiment à cette guerre. Et donc là, du coup, avec la vague centenaire qui est arrivée et qu'on l'a vu déferler en Allemagne en 2014, on constate quand même qu'il y a eu un intérêt majeur. Après, il faut aussi voir à quoi les Allemands s'intéressent. Oui. Et là, effectivement, la seule question qui a pu faire débat était effectivement celle de la responsabilité de la guerre. Donc avec notamment le succès absolument faramineux du livre de Christopher Clark, qui a vraiment...
Les
somnambules en français, qui a vraiment orienté tous les débats. S'intéresser aux origines de la guerre et commémorer la guerre n'est quand même pas tout à fait la même chose. Hein. Donc là, au contraire, moi je pense que ce débat qu'a pu soulever Clark est un débat qui renvoie à d'autres questions mémorielles beaucoup plus importantes pour l'Allemagne, à savoir la culpabilité allemande au XXe siècle. Donc du coup, on voit plus qu'à travers cette discussion de la Première Guerre mondiale, on jette un regard nouveau sur l'histoire allemande du XXe siècle dans son ensemble. Et donc du coup, ce n'est pas la même chose que de commémorer la Première Guerre mondiale, comme on a pu le faire en France. De manière générale, il y a beaucoup moins d'identification des Allemands d'aujourd'hui avec les Allemands de l'époque. Donc ce lien affectif qui réunit finalement les Français d'aujourd'hui aux Français de l'époque, il est rompu. Et évidemment, ça impacte négativement la possibilité de commémorer.
Merci Arne Weinrich d'être venu aussi précisément nous raconter cette longue histoire de la commémoration de cette bataille de Verdun, mais plus largement de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Merci Valériana, on se retrouve le mois prochain.
Avec plaisir.
Et on rappelle que donc on trouvera l'article de Nicolas Patin et de Arne Weinrich dans le dernier numéro de l'Histoire qui vient de paraître en kiosque, qui est titré « Gouverner en islam, le vrai pouvoir des califes » et qui évidemment lorgne sur les historiens qui préparent des concours aussi, parce que gouverner en islam, c'est un des thèmes des concours d'enseignement en France, et donc avec un sous-titre « Verdun raconté par les Anglais et les Allemands » avec des articles de Bruno Cabanne, de Gerd Kromaech, Antoine Pro et de Nicolas Patin et d'Arne Weinrich. Merci à tous les deux.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et à cette heure-ci, eh bien, nous retrouvons comme chaque mois Amélie Meffre. Bonjour Amélie Meffre, pour votre chronique Un saut dans la loi, où vous repartez d'un événement d'actualité pour vous plonger dans une loi ancienne ou un décret ancien qui permet de mieux comprendre le regard que l'on peut avoir sur cette actualité. Alors le 13 avril dernier, la cour d'assises de Paris a condamné à des peines de 6 à 15 ans de prison 7 pirates somaliens pour l'attaque meurtrière d'un voilier d'un couple de Français dans le golfe d'Aden. C'était en 2011, on en a parlé la semaine dernière, lundi dernier, avec une de nos invités, Michel Battesti, et c'est pour vous l'occasion de rappeler justement la loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.
Et oui, Emmanuel, et elle est intéressante cette loi à plus d'un titre. D'abord parce que la France, en 1825, est un des premiers pays à se doter d'une loi contre la piraterie. Et avec ce texte, elle donne compétence aux juridictions pénales françaises pour punir des faits commis en dehors des eaux territoriales. Comme le faisait remarquer Baptiste Delmas, un doctorant en droit international à Bordeaux, c'est une des premières lois qui affirme la compétence universelle de tribunaux nationaux. Alors si la piraterie connut surtout son apogée au XVIIIe siècle, elle n'est pas pourtant éradiquée au début du siècle suivant. Elle sévit encore en Égypte, en Chine, en Grèce, en Afrique du Sud ou encore au Maghreb. Et comme le rappelle l'historien Daniel Matonnet, en fait, deux rapports, l'un déposé à la Chambre des Pairs en février 1825 par le baron Portal et l'autre à la Chambre des députés le mois suivant par Jean-Marie Pardessus, prépare la nouvelle loi. Alors on discute de la compétence des tribunaux maritimes ou ordinaires pour juger des crimes de piraterie ou encore des situations particulières selon qu'on est en temps de paix ou de guerre. Pour ce qui est de la définition proprement dite de la piraterie, on tranche parfois dans le vif, si j'ose dire. Ainsi, le comte de Peyronnet, garde des Sceaux, explique le 22 février 1825 « La destination d'un bâtiment armé est de faire la guerre. On a le droit d'examiner s'il prépare une guerre légitime ou une guerre illégitime. Sur la mer, une guerre illégitime s'appelle piraterie. » Point barre. Donc cette loi du 10 avril 1825 va s'évertuer à définir dans son titre premier le crime de piraterie, mais aussi celui de baratrie dans son titre 2 et dans son titre 3, les poursuites et les compétences. Alors l'article premier prévoit que, je cite, « seront poursuivis et jugés comme pirates tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire armé et naviguant sans être » ou avoir été muni pour le voyage de passeport, de rôle d'équipage, commission ou autre acte constatant la légitimité de l'expédition. Mais peut-être poursuivi aussi tout commandant d'un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs États différents. Donc on réprime les traîtres comme les auteurs de mutinerie, puisque l'article 4 affirme que sera poursuivi et jugé comme pirate, tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait du dit bâtiment.
Alors, qu'est-ce qu'il en est de la compétence universelle? Parce que ça, c'est très intéressant, Amélie.
Eh bien, il y a compétence universelle parce que la piraterie est considérée comme un crime contre l'humanité. Et donc, la loi prévoit que les prévenus de piraterie seront jugés en France. Ainsi, ils comparaîtront devant le tribunal maritime de Toulon si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la Méditerranée et les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest, lorsque le crime sera commis sur les autres mers. Les complices, eux, peuvent être jugés par des tribunaux ordinaires. Quoi qu'il en soit, dans la majorité des cas, les pirates sont punis de mort, ou au mieux condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Alors, dans son étude sur la loi de 1825, parue en février 1876, un certain Amédée Sainte-Claire-de-Ville cite l'affaire du « Faudéric Arca ». En mai 1864, l'équipage du navire se révolte et tue le capitaine, le lieutenant et le mousse. Après avoir pillé et coulé le bateau, les matelots se font passer pour des naufragés. Poursuivis bien des années plus tard, après les aveux d'un novice, ils seront guillotinés. Et comme l'affirme ce cher Amédée, le but de cette loi n'est pas de protéger les propriétaires des navires ou les armateurs, mais bien d'assurer la sûreté de la navigation et du commerce maritime. C'est donc une loi d'intérêt général. Et ce qui est intéressant encore dans cette loi à compétence universelle, c'est qu'elle ne va être abrogée qu'en 2007.
Très récemment donc.
Très récemment, mais à ce moment-là, on la juge obsolète alors que les actes de piraterie vont connaître un nouvel essor. Et donc en 2011, on concocte une nouvelle loi pour poursuivre les pirates.
Et merci beaucoup Amélie Meffre pour cette mise au point justement liée à la question de la piraterie à l'occasion de ce jugement rendu il y a quelques jours donc à Paris avec à propos de pirates somaliens. On peut lire sur ce sujet l'article de Daniel Matonnet sur l'évolution du droit de la piraterie en France dans La piraterie au fil de l'histoire, dont on a reçu il y a quelques temps la directrice de ce numéro. Donc elle s'appelle Michèle Battesti, c'est paru en 2014 aux presses universitaires Paris-Sorbonne. Dernière partie de cette émission de vendredi, donc émission d'actualité. Nous sommes en une sorte de prélude, pourrait-on dire, à la série d'émissions que nous ferons la semaine prochaine autour de l'histoire racontée aujourd'hui, 5 ans après la révolution en Tunisie. Nous avons rencontré en Tunisie il y a quelques jours Farah Hached qui dirige le Labo démocratique. Farah Hached, bonjour.
Bonjour.
Farah Hached, vous êtes la fondatrice d'une un mouvement citoyen qui s'appelle le Labo démocratique ici en Tunisie. Un mouvement citoyen, on se dit habituellement, il est là pour traiter des problèmes contemporains, régler des problèmes de la société civile par rapport au pouvoir politique. Or, vous avez choisi dès l'origine d'en faire un mouvement citoyen qui s'intéressait aussi, pas simplement, mais aussi au passé. Pourquoi vous êtes intéressé à des questions d'histoire, à des questions d'archives, en fondant le Labo démocratique ?
Alors, quand on a fondé le Labo démocratique juste après la chute du régime de Ben Ali et le début de la révolution tunisienne, et donc pour nous, passer de ce régime autoritaire ou de dictature, c'est une définition aussi qui se discute ici. Moi, je préfère dire la dictature. Donc, de passer d'un régime de dictature à un régime démocratique, ça nécessite de faire tout un travail de mémoire, en fait, sur cette dictature, ce qu'elle a fait, une sorte de diagnostic de ce qui s'est fait, de montrer la vérité. Parce que nécessairement, il y a toujours des gens qui refusent ou qui ne veulent pas, ou qui minimisent les exactions. Alors, bien sûr, on a eu d'ailleurs pendant tous nos travaux toujours des gens qui viennent nous dire oui, mais bon, ce n'est pas Pinochet non plus, ou ce n'est pas. Alors voilà, par exemple, le terme dictature, mais c'est pas une dictature, c'est un régime autoritaire. Oui, d'accord, ce n'est pas Pinochet, c'est vrai. Et mais entre Pinochet ou entre Hitler d'un côté et la démocratie de l'autre, il y a plusieurs degrés l'ancien régime était quelque part voilà. Donc pour pouvoir passer à autre chose, on est obligé de montrer la vérité et reconnaître les exactions des personnes qui ont souffert.
C'est pour documenter d'une certaine façon ce qu'était ce régime.
Il y a ça c'est un processus. Il y a aussi la question que ce que j'appelle moi les archives de la dictature, c'est-à-dire les archives qui les dossiers qui concernent les citoyens mais qui ont été mis en place, écrits, etc., dans le cadre de cette dictature pour la perpétuer, pour la maintenir. Donc c'est pas juste n'importe quelles archives. Ces archives-là, en tant que citoyenne, c'est mon droit, je considère que c'est mon droit d'accéder à mon dossier. C'est-à-dire si j'ai un dossier, de savoir déjà si j'en ai un. La position, c'est que ces archives n'auraient jamais dû exister. Donc, puisqu'elles existent, c'est mon droit d'y avoir accès.
Un peu comme pour la Stasi et les habitants de RDA, oui. Ou pour d'autres oui. régimes autoritaires ou dictatoriaux, la demande de la possibilité de savoir ce que le régime savait de soi, d'une certaine
oui,
façon.
Oui, et aussi parce que ce sont aussi des choses qui peuvent être instrumentalisées. C'est-à-dire, au moment où on a commencé sur le projet, c'était février-mars à peu près, on a essayé de voir...
Février-mars 2011. Dès le début.
Oui, dès le début. Pour voir s'il y a des gens qui étaient intéressés par le sujet, voir si on pouvait lever des fonds pour faire une grande conférence sur le sujet, qu'on a fait d'ailleurs en novembre 2011. Mais à ce moment-là, les gens étaient focalisés sur les élections. Ce qui est normal, je ne suis pas en train de juger ça. Juste, par contre, pour nous, ce qui était important, c'était le moyen et le long terme, et non pas le court terme des élections. Parce que on considérait que quel que soit le parti qui allait gagner, même s'il se dit ouvert, démocrate ou quoi que ce soit, tant que les mécanismes de l'ancien régime étaient présents, il y avait de grandes chances que les prochains dirigeants allaient instrumentaliser et utiliser. On ne sait jamais, c'est-à-dire la démocratie est quand même fondée sur le doute de l'autre. C'est-à-dire on doit douter de l'autre, on doit penser qu'il peut profiter de la situation. Il ne faut pas ouvrir les portes, quoi, de possibilités de corruption ou autre.
Alors, vous avez lancé ce mouvement, pourrait-on dire, sur les archives de la dictature de Ben Ali. Est-ce qu'il a eu des suites? Est-ce qu'il a eu des conséquences? Est-ce qu'en termes d'ouverture de ces archives, vous avez obtenu des résultats, Farah Hachad?
Alors, en fait, non. C'est ça le truc, c'est que... ça fait partie des questionnements que j'ai et que les gens avec lesquels je travaille ont aussi. C'est-à-dire, nous, on s'est situé dès le départ comme un groupe de réflexion, comme un think tank qui propose, qui n'est pas un groupe de militants de terrain. C'est-à-dire, par exemple, en Allemagne, il y a des gens qui ont investi les locaux de la Stasi, qui ont obligé le gouvernement allemand à faire quelque chose pour les archives. Nous, on s'est situé comme des personnes qui voulaient comprendre d'abord ce que c'était, c'est quoi la police politique, comment ces archives ont été constituées, comprendre la complexité du problème pour pouvoir proposer des solutions concrètes et faisables, en fait, réalistes. Et ça prend du temps, ça. On était contre, par exemple, que ces archives soient ouvertes de façon complètement indiscriminée, comme on était contre qu'elles restent fermées dans l'avenir. Mais on ne voulait pas que d'autres nous instrumentalisent, finalement, pour pouvoir aussi utiliser ces archives pour leur propre intérêt.
Et alors ?
Et alors, je pense qu'on a fait un travail surtout de réflexion et de proposition qui a abouti d'ailleurs à un livre sur le sujet. Donc, avec toute une machinerie juridique possible. Entre-temps, la loi sur la justice transitionnelle en Tunisie a avancé. Nous avons donné notre opinion sur cette loi à plusieurs reprises. Nous avons aussi milité pour que cette loi soit adoptée rapidement, parce qu'elle prenait du temps. Quand la loi sur la justice transitionnelle a été adoptée et que l'instance vérité et dignité a été mise en place, il y a eu aussi des choses concernant les archives, c'est-à-dire la présidente de l'instance est allée à la présidence de la République pour prendre des archives. Il y a eu un conflit à ce propos. Nous, on s'est positionné par rapport à ça. Mais en fait, non, les archives n'ont pas été ouvertes au public, c'est-à-dire aux personnes, aux individus. Ça veut dire que si je demande aujourd'hui mon dossier, je ne l'aurai pas. Si j'ai un dossier, c'est-à-dire je ne saurai pas si j'ai un dossier et s'il y en a un, on me donnera rien. On va me répondre, oui, mais il y a une loi sur l'accès, le droit d'accès à l'information qui vient d'être adoptée. On attend de mettre en place une commission. En fait, c'est une commission qui va ressembler à la CADA. En France.
Donc, commission d'accès aux documents administratifs.
On va me dire, soit vous passez par la prochaine CADA, commission d'accès à l'information, soit on va me dire, vous n'avez qu'à faire une demande auprès de l'instance vérité et dignité. Sauf que moi, je ne suis pas une victime du régime dans le sens où je n'ai pas subi d'exaction. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irai à l'instance vérité et dignité. Mais en même temps, je considère que en tant que citoyenne, comme tous les citoyens de ce pays, nous sommes des victimes de la dictature au sens général, en fait. Et que le fait même d'avoir eu cette chape de plomb et d'avoir eu peur d'être tout le temps fiché, d'être que quelqu'un puisse rapporter nos propos, tout ça, c'est déjà très traumatisant. Donc non, la réponse est non, il n'y a pas eu d'ouverture des archives, en tout cas les archives sensibles, mais en même temps, Le contexte sécuritaire, le terrorisme, est là, en fait, c'est une justification pour ne pas le faire. Dans les fichiers de police de l'époque de Ben Ali, il y a des fichiers qui sont encore utilisés aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent continuer à être suivis aujourd'hui parce qu'ils font partie de groupes terroristes aujourd'hui ou supposés terroristes. Donc comment faire la part des choses entre ce qui est une menace, qui est une menace à la sécurité nationale et qui a été fiché juste parce que c'est un simple opposant politique, mais qui n'était pas une vraie menace pour la sécurité nationale, une simple menace pour le régime, par contre. Et là, c'est très difficile. Et tout le travail qu'on a fait au niveau de notre livre, ça a été ça. Ça a été d'essayer de décortiquer ça, d'essayer de comprendre même au niveau des services de sécurité comment ils voient les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terme police politique est un terme que je n'utilise quasiment plus parce que c'est un terme trop connoté finalement, alors que la Tunisie, on voit très bien que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité dans le secteur de la sécurité avec un service de renseignement, parce qu'en réalité c'est ça, c'est un service de renseignement qui fait son travail, mais Dans ce service de renseignement, il va y avoir des groupes qui vont utiliser les services de renseignement dans le cadre de la protection d'un régime. Sauf que dans les années, après l'indépendance et dans les années 60-70, le régime, c'est l'État. L'État, c'est le parti. Et le parti, c'est l'État. C'est-à-dire que politiquement, on était dans un régime de parti-État. Donc pour les personnes qui sont dans le secteur de la sécurité, ils ne font pas la différence tellement, même s'ils essayent de garder un peu... Mais c'est difficile de garder cette frontière, étant donné qu'il n'y a pas de frontière en général. Donc... Et après, bien sûr, avec la mise en place d'un système sous Ben Ali qui va devenir assez mafieux vers la fin, c'est-à-dire surtout à partir des années 2003-2005, ça va être en fait mafieux dans le sens où il y a une sorte d'accaparement ou de prédation sur l'économie. Même là, ces groupes, certains groupes, je ne veux pas généraliser, dans les services de renseignement vont être utilisés pour servir cette prédation.
On vous sent très, très prudente, Farah Hached, pour ne pas jeter l'ensemble du régime, enfin en tout cas l'ensemble de ceux qui ont servi, ceux qui ont servi le régime de Ben Ali. C'est aussi le souci d'une société comme la société tunisienne, 5 ans après la révolution, que de tenter justement de faire l'état des lieux le plus précis possible de ce qu'a été ce régime de Ben Ali.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on veut une vraie justice, on ne peut pas condamner tout le monde de façon indiscriminée. La justice, c'est aussi prendre en compte au cas par cas. C'est-à-dire que si des gens ont été, notamment dans le secteur de la sécurité, ont fait leur travail, n'ont pas commis d'exactions, n'ont torturé personne et ont fait leur travail, c'est-à-dire tel qu'ils devraient être dans
protéger
un
l'État.
État normal, pourquoi devraient-ils être condamnés pour quoi que ce soit, accusés ou même condamnés? Donc oui, la justice, c'est ça aussi. Enfin, il y a une grande différence entre servir un régime et servir l'État. Bien que la frontière soit
mouvante,
il y a quand même une différence. Et donc, ma position et notre position, ce n'est pas par rapport aux gens qui ont servi le régime de Ben Ali, c'est par rapport au fait qu'il y a des gens qui ont servi l'État. Donc, et comment faire la différence? La frontière n'est pas si facile à trouver. C'est le travail de l'instance Vérité et Dignité aujourd'hui.
Qui fonctionne bien selon vous?
Moyennement, qui fonctionne pas très bien, qui a eu beaucoup de mal à démarrer, parce que nos dirigeants actuels, au départ, semblaient en tout cas avoir quelques problèmes avec cette instance Vérité et Dignité, qui est elle-même assez politisée, donc qui était en tout cas assez politisée. Donc ce n'est pas évident, c'est pas évident. Par contre, elle a eu accès récemment à plusieurs archives. Donc, tout à l'heure, j'ai dit non par rapport aux archives. Je dis non par rapport à l'accès d'un individu. Mais l'instance Vérité et Dignité a eu accès. Elle a accès aux archives qui sont aux archives nationales, c'est-à-dire les archives de l'ancien parti dominant,
le
RCD. Elle a accès relativement aux archives de la présidence de la République. Ils sont parvenus à un certain accord, malgré le conflit du début. Bon, elle n'a pas accès aux archives du ministère de l'Intérieur, apparemment, mais on verra. Enfin, tout est possible, hein, petit à petit.
Votre combat prend la suite du combat de votre père, à propos de votre grand-père, qui avait été assassiné pendant la colonisation et pour lequel vous demandez toujours l'accès aux documents autour de son assassinat.
Oui.
Et là, c'est la France qui est responsable. Oui. C'est donc un combat qui semble relativement logique, familiale, filiale, de piété filiale, d'une certaine façon, que vous menez, Farah Hached. Est-ce que vous avez eu suffisamment, justement, pour remplir votre désir de connaissance autour de l'assassinat de votre grand-père, qui, rappelons-le, était le fondateur ici de l'UGTT, un des fondateurs de l'UGTT, et qui est mort quelques années avant la décolonisation, donc avant 1956, ici, assassiné?
Oui, il a été assassiné en 52, donc 4 ans avant l'indépendance. En fait, c'est plutôt le combat de mon père. C'est-à-dire que
qui a fondé une fondation au nom de son propre père.
Pour ça, dire pour faire la vérité, pas uniquement sur Farhat Hached, mais sur toute la période des années 50 et 52 notamment, parce que pendant l'année 52, il y a eu beaucoup d'exactions en Tunisie. Donc c'est plutôt le combat de mon père, et je reprends bien entendu la flamme, c'est normal, mais lui, il est sur ce combat de façon maintenant systématique. Il a eu accès à plusieurs archives récemment, donc il a toujours accès. Il y a le président François Hollande qui est venu en 2012 en Tunisie avec un dossier qui a été remis à ma grand-mère, où il y a déjà pas mal d'indices sur un certain nombre de choses, mais c'est pas encore. Ce sont des indices en fait, et je pense que ça restera des indices probablement tant qu'on n'aura pas accès aux archives de la DGSE actuelle, c'est-à-dire l'ancien SDEC en fait, qui semble-t-il est responsable de son assassinat, selon les indices qu'on a trouvés dans les autres dossiers. Donc, et ça reste les archives auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui. Et pourtant, ce sont des archives de 1952. Ils devraient être accessibles en réalité. Pourquoi ne sont-ils pas accessibles? Enfin, dans les autres pays, on les a ouverts, ces archives des années 50. Alors oui, c'est vrai, il y a un lien avec mon combat d'aujourd'hui, parce que quelque part, j'ai vécu ça de façon quotidienne, en fait. Cette envie de savoir qui a tué, pourquoi, comment, ça. Et donc je peux comprendre que les gens qui ont vécu ce type d'exactions, de crimes, dans leur propre vie, c'est que s'ils sont eux-mêmes enfants de quelqu'un qui a subi la prison, qui a été enlevé ou qui a été assassiné ou qui a été torturé, je peux comprendre qu'ils aient envie de savoir et que la vérité soit faite et qu'il y ait une reconnaissance, en fait. C'est beaucoup plus la reconnaissance que la justice en tant que justice, c'est-à-dire réparation, autre, ça... Bon, en tout cas, nous, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la reconnaissance, en fait.
Farah Ached, dans ce dispositif que vous décrivez, il y a des juristes, il y a des citoyens qui veulent la vérité. Il y a aussi des historiens, j'imagine, qui, intéressés par ce mouvement qui se déroule depuis maintenant près de 5 ans ici, plus de 5 ans ici en Tunisie, se sont dit, on va pouvoir accéder à de nouveaux documents, on va pouvoir faire une nouvelle histoire de cette période de l'indépendance tunisienne. Ils ont leur place dans ce dispositif ?
Bien sûr qu'ils ont leur place. C'est-à-dire, on peut pas faire ce processus sans les historiens. Maintenant, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'histoire, même que ce soit l'histoire de l'époque coloniale ou l'histoire de l'époque de Bourguiba, et n'en parlons même pas l'histoire de l'époque de Ben Ali, qui est une histoire quasiment qui n'est pas encore une histoire, tellement elle est proche. Ce sont toute cette histoire est à refaire parce que les historiens qui ont travaillé sous un régime qui était un régime autoritaire.
Qui est orienté.
Bien entendu, c'est-à-dire la place de tel ou tel personnage, notamment la place de Bourguiba, par exemple. C'est-à-dire que la façon dont Bourguiba est décrit dans le processus en général.
Ou de Youssefistes qui étaient...
Voilà, la question des Youssefistes. Il y a beaucoup de choses qui ont été explorées d'une certaine façon, ou qui n'ont pas été explorées parfois. Ou les baies, comment ils ont agi, comment ils n'ont pas agi, tout cela. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont été la cible à l'époque de l'indépendance, la cible de quelque chose d'un peu indiscriminé, d'injustice. Donc il va y avoir nécessairement des dossiers qui vont s'ouvrir, des historiens qui vont reprendre cette histoire. Mais d'un autre côté, là, il va y avoir beaucoup de politisation aussi. Parce que nécessairement, il y a des gens qui vont vouloir orienter l'histoire d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon. Comment on va faire la part des choses ? À mon avis, c'est mon approche, et peut-être parce que mon père est historien, justement, c'est un peu l'approche qu'il m'a transmise. Tout cela, il va falloir beaucoup de temps, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire maintenant, ce sera quelque part du matériel ou du matériau pour les historiens de la génération qui va venir après, à mon avis. Mais tout ce qu'on est en train de faire, quelque part, c'est pour les générations futures, je pense.
Merci beaucoup, Farah Ached.
Merci à vous.
Bien, toutes les questions restées en suspens dans la voix de Farah Ached, enregistrée il y a quelques semaines en Tunisie, et bien nous tenterons d'y répondre la semaine prochaine avec trois émissions, lundi, mardi et mercredi, autour de l'histoire tunisienne et des transformations qu'elle a subies depuis la révolution il y a 5 ans. Et lundi, nous serons justement aux Archives nationales en balade. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vona Bolivier et Aurélie Marsay. Pascal Bénard était aujourd'hui avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site franceculture.fr.